jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à tous et à toutes. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet, avec Margot Agnès et Charlotte Méritant pour les archives sonores de la rédaction. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission. Et à la une, cette histoire dont on n'aurait certainement pas parlé, comme je le disais tout à l'heure, si l'assassin n'avait pas été un homme très âgé et si sa victime elle-même n'était pas également une femme très âgée. L'homme dont nous allons parler est actuellement le plus vieux détenu de France. Il a 94 ans. Il purge une peine de 10 ans de prison à la maison d'arrêt de Salon de Provence. Il a tué une amie de 20 ans, 82 ans, Nicole Eldib. Lui-même s'appelle Marcel Guillot, mais tout le monde l'appelle dans son entourage, ou l'appelait en tout cas à cette époque, Papy Marcel. Alors, pour parler de cette affaire, j'ai réunis autour des micros de l'heure du crime Cindy Hubert, ma consoeur d'RTL. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez, on le sait, au service police-justice d'RTL et vous avez suivi en 2014, l'an dernier, le procès de Papy Marcel, allez, appelons-le comme cela. Près de vous, Nicolas Jacquard, qui est journaliste au Parisien. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors vous avez couvert à la fois le procès, puis aussi une partie de l'affaire, quand elle s'est révélée.
Tout à fait.
Et puis, près de vous, les deux avocats, l'avocat de la défense et l'avocat des parties civiles. Près de moi, maître Jean-Marie Job, avocat au barreau de Paris. Donc, vous étiez l'avocat de la famille de Nicole Eldib.
Bonjour, tout à fait. Je représentais la fille de Madame Eldib, son gendre. Oui. Et ses petits-enfants.
Voilà, mais on parlera de cette fille en question parce qu'elle avait donné le conseil à sa mère, je crois, de proposer à Papy Marcel de venir, ce que j'ai lu dans la presse, mais vous êtes là pour rectifier
tout ça.
De la même manière que votre confrère, maître Jean-François Delmas, avocat au barreau de Nanterre, bonjour.
Bonjour Jacques Prandel.
Et vous étiez donc l'avocat de la défense, l'avocat de Marcel Guillot.
Absolument. Ouais. J'étais l'avocat de Marcel Guillot avec Rachida Derfoufi qui partageait cette défense avec moi.
Oui. Alors, je vais donner d'abord la parole aux journalistes, si vous le voulez bien. Revenir sur cette histoire par sous plusieurs angles. Il y a eu les faits qui remontent à 2011, cette nuit terrible du 6 au 7 décembre 2011, sur laquelle on reviendra très longuement tout à l'heure. Il y a eu l'an dernier ce procès, le procès de Marcel Guillot, qui est condamné finalement à 10 ans de prison, qui risquait la perpétuité. Et on va écouter tout de suite un premier document RTL. C'est donc Cindy Hubert qui suivait ce procès pour RTL. Nous sommes le 26 mars 2014. C'est le premier jour d'audience. Écoutez le premier papier de Cindy Hubert sur place pour RTL.
Marcel Guillot n'entend plus grand-chose malgré son sonotone. Et puis, il a souvent des absences. Papy Marcel, comme on le surnomme en prison, est un petit père tranquille, bonne patte, qui regarde la télévision et fait des sudoku. Mais c'est bien pour assassinat qu'il est aujourd'hui devant les assises. Lui, qui rêvait de retraite au soleil sur l'île d'Oléron, son avocat, maître Jean-François Delmas.
Il y avait ces fameuses parties de pétanque, ce camping dont il était une des figures locales, appréciées par tous. D'ailleurs, lorsque les gens ont appris ce qu'il avait fait, et c'était un cataclysme.
Marcel s'est entiché de Nicole, 82 ans. J'avais un petit béguin. Mais la vieille dame a repoussé ses avances. Alors, quelques semaines plus tard, il débarque chez elle avec sa Renault 25. Il casse le carreau de sa fenêtre, réussit à grimper à travers. Et puis, il la frappe dans son lit. 30 coups très violents. Son corps a été retrouvé dehors, près du ruisseau, un peu plus loin. Je voulais seulement lui mettre une volée, explique aujourd'hui l'homme quasiment centenaire qui risque de finir ses jours en prison.
Alors, Cindy Hubert, je reviens à vous et avec Nicolas Jacquard, on va essayer de dire qui est qui, comment ces gens s'étaient rencontrés, comment finalement tous les ingrédients de ce drame se sont composés, à la suite de quoi il y a eu cet acte terrible quand même. Cindy Hubert, c'est un peu plus compliqué que une histoire d'amour qui se finit mal.
En fait, ce qui se passe, c'est que ces deux familles qui étaient amies et qui se recroisent
dans des circonstances par hasard, c'est-à-dire que Marcel Guillot et sa femme, qui est encore vivante, vont croiser l'autre clou, à peu près par hasard, et vont reprendre contact en Australie.
Et ils sont près de l'embarquement.
C'est ça.
Et Nicole Elgib reconnaît la femme de Marcel. Elles ont été amies d'enfance, et donc à partir de là, les liens se renouent.
Se renouent, donc une famille va chez l'autre, on se croise, on s'invite. Et puis, le mari de Nicole va avoir une maladie de Parkinson assez avancée.
Être hospitalisé.
Voilà, ce qui fait que Marcel a toujours eu, effectivement, dit ce petit béguin. Et il va venir séjourner 3 semaines chez elle.
Mm-hmm. Et ça, c'est un peu l'intérim parce qu'elle n'a pas encore pu
embaucher de gardien.
C'est ça. Voilà. Parce qu'elle a une propriété quand même assez...
Sauf qu'il va devenir un peu plus qu'un gardien. C'est ce qu'on va comprendre assez vite. Mm-hmm. Et il prend beaucoup de place chez Nicole.
Oui. Alors, Nicolas Jacquard, un mot encore sur Marcel Guillot, sur son parcours. C'est quelqu'un qui a exercé pas mal de métiers, finalement. Il a été bûcheron.
Oui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il a commencé à travailler à 12 ans, à l'âge de 12 ans. Donc, quand on sait qu'il est né en 1921, voilà, c'est quelqu'un qui a connu tout le 20e siècle. Il a été réfractaire au service du travail obligatoire. Il a travaillé à ce moment-là pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une usine d'embouteillage à Vittel. Oui. Ensuite, il a été bûcheron, justement, pour échapper au STO. Et puis, il est revenu en Île-de-France. Il travaillait dans une clinique à Aubervilliers jusqu'à ses 60 ans, où il est parti pour une retraite bien méritée. Quelqu'un qui a eu deux enfants qui, au long de sa vie, n'avaient pas fait parler de lui.
Voilà, donc Nicole Elgib, elle est dans la Marne, dans cette propriété, et lui, il habite dans la région parisienne avec son épouse, qui va décéder, donc.
C'est ça, ils habitaient un petit pavillon à Bobigny, et c'est là qu'ils ont fait leur vie, et lui donc faisait, comme disait Cindy Hubert, les allers-retours jusqu'à ce moment où il a passé 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, dans le domaine de Nicole Elgib, un petit peu comme homme à tout faire, et puis peut-être aussi comme confident. Ce qu'on peut éventuellement rajouter, c'est aussi une espèce de différence de milieu social entre ces deux couples, et Marcel Guillot le dira un petit peu plus tard, ça peut être aussi, je pense que son avocat nous le dira, mais un des éléments de ce drame qui s'est cristallisé, mais de couple au niveau de vie un petit peu différent, qui, s'il ne s'était pas recroisé au cours de ce voyage en Australie, peut-être ne se serait pas fréquenté.
Voilà, donc voilà ce qu'il fallait dire pour que tout le monde soit bien dans le contexte de l'histoire. On va faire une première pause dans cette émission et ensuite on va retrouver Maître Jean-François Delmas et Maître Jean-Marie Job, puisque en tant qu'avocat pour l'un de la défense, pour l'autre des parties civiles, ils connaissent évidemment le parcours de ces deux personnes et ils pourront peut-être compléter le récit que nous, les journalistes, nous pouvons faire. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Un homme de 90 ans qui tue une femme de 82 ans, évidemment, c'est une affaire qui a fait la une des médias, d'abord régionaux, et puis on a beaucoup parlé de cela parce qu'il y a eu un procès qui a duré 3 jours. On a entendu tout à l'heure le papier de Cindy Hubert d'RTL qui suivait ce procès pour RTL. On reviendra sur un certain nombre de documents sonores qui ont été diffusés à l'époque sur l'antenne d'RTL. On est aussi avec Nicolas Jacquard, donc du Parisien, qui était aussi dans le public pour suivre, au banc de la presse pour suivre ce procès. Et maintenant, on va donner la parole aux avocats. Maître Jean-François Delmas, qui est l'avocat de Marcel Guillot, donc c'est la défense, on va vous donner la parole d'abord.
Merci.
Ensuite, avec Maître Jean-Marie Job, qui est l'avocat de la partie civile, on complétera ensemble le contexte général de cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ce qui a été dit?
Alors, sans vouloir profondément changer un petit peu ce qui a pu être exprimé jusqu'à présent, dire que cette amitié de ce couple repose d'abord sur les deux femmes, qui sont des amies d'enfance, et les deux hommes, finalement, sont des satellites qui vont devenir amis sans être vraiment amis. Ce sont des relations qui s'apprécient mutuellement.
Mm-hmm. Après cette rencontre inopinée au cours d'un...
Complètement inopinée, je crois, dans un aéroport, en attendant un avion pour une destination lointaine qui était l'Australie. Ouais. Lorsque la femme de Marcel Guillot va mourir, effectivement, la relation va perdurer au travers de Marcel et de Nicole Elgib.
Et ce couple va devenir ami, rester ami avec Marcel Guillot, et ils vont se voir de temps en temps, de temps à autre. D'autant plus, et là j'en reviens à la personnalité, j'allais dire, presque profonde de Marcel Guillot. Marcel Guillot, c'est un garçon qui, c'est un homme, qui toute sa vie a servi, au sens noble du terme. C'est un homme qui a été ambulancier, c'est un homme qui a toujours aidé. Et quand on en parle à son entourage, c'est un homme qui aime profondément aider les autres. Et dès que quelqu'un a un problème, souvent même pour du petit bricolage, on lui demande d'intervenir.
On a du mal à croire qu'il ait été l'acteur principal d'un drame pareil, quoi.
C'est totalement inimaginable. Tellement inimaginable que même les parties civiles ne l'imaginaient pas un seul instant et qu'elles ont été extrêmement surprises. Mon confrère, je pense,
on va voir ça avec
en parlera peut-être plus largement. Mais totalement inimaginable aussi au regard de son histoire et de son profil. C'est un homme qui est doux. Son fils, Joël, a dîné à multiples reprises, mais à l'audience notamment, avec une solennité, une douceur et, j'allais dire, une humanité vraiment importante. Il n'avait jamais vu son père se mettre en colère ni lever la main sur qui que ce soit.
Il a dit, on en reviendra avec les journalistes qui ont suivi le procès aussi, il a dit il a pété les plombs, quoi, en gros. Hein, c'était un petit peu son explication.
Parce que personne n'a de réponse, finalement.
Alors, maintenant, Maître Jean-Marie Job, qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter ce qui a été dit avant?
Je ne suis pas en désaccord.
Les relations ne sont pas des relations très
voilà,
étroites.
Voilà, ce ne sont pas des relations très étroites. Je crois que les deux femmes se sont connues, Madame Eldib et Madame Guillot se sont connues à l'école maternelle ou à l'école primaire. Elles se retrouvent par hasard dans une queue d'aéroport au moment d'embarquer pour l'Australie. Et effectivement, ils passent ce voyage ensemble. Les deux couples passent ces quelques jours, ensemble avec les autres participants. Et puis, il y a des relations qui se nouent, mais des relations assez épisodiques. Ils se voient, je crois, une ou deux fois par an. Et généralement, ce sont bien évidemment c'est la famille Guillot qui vient visiter monsieur et madame Eldib dans cette maison de campagne qu'ils ont non loin de Reims.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, c'est un peu aussi deux mondes différents. Parce que Marcel Guillot, c'est plutôt un ancien ouvrier, c'est quelqu'un qui est très à l'aise enfin, dans la vie, qui a son petit pavillon, sa vie. Mais Madame Eldib, alors, et son mari ont une propriété.
Je veux dire que je pense qu'intellectuellement, effectivement, il y a une différence. Bon, monsieur et madame Eldib ont travaillé toute leur vie,
sont bien sûr, avec une cuillère
en or dans la bouche. Ils ont acquis cette propriété, ils y sont bien, ils y vivent, et ils l'entretiennent. Madame Eldib est une femme qui a 82 ans, qui est très alerte, qui a une vie sociale, qui participe à des associations, à la vie d'association, qui fait de la couture, je crois, qui a une vraie vie sociale, et puis son mari qui est atteint d'une maladie qui nécessite une hospitalisation au milieu, avec des aides au quotidien, va être hospitalisé au printemps 2011, juste avant les faits, en fait.
Et alors, avant les faits. C'est là que sa fille, parce que je vous ai vu réagir quand j'ai dit ça tout à l'heure, j'avais compris que sa fille, sa propre fille, lui avait conseillé quoi de faire venir Marcel.
C'est pas sa fille qui lui a conseillé, c'est Madame Eldib qui a émis cette idée, et sa fille n'avait pas vraiment d'avis sur le sujet.
L'idée, c'est qu'elle cherchait des gardiens pour la propriété parce qu'elle était seule, et on lui a dit
elle cherchait pas de gardien. Son gardien l'avait démissionné, elle était à la recherche d'un nouveau gardien. Son mari venait d'être hospitalisé, elle se voyait passer le mois de septembre seule, et elle a proposé effectivement à Marcel Guillot de venir passer quelques jours avec elle. D'accord. Et sa mère ne s'y est pas opposée, mais c'était pas elle qui a été à l'initiative, si vous voulez.
D'accord. Alors, je redonne la parole aux journalistes, là, Nicolas Jacquard et Cindy Hubert. Marcel Guillot vient donc, il va rester présent dans cette propriété pendant pas mal de temps quand même.
Oui, il va rester un petit peu plus de 3 semaines. Et puis, je crois que ce sont les juges qui le diront pendant l'instruction. Il y a une espèce de manège comme ça qui se met en place. Alors,
est-ce que... Il beurre ses tartines le matin pour le petit déjeuner, c'est ça?
Je ne sais pas si ça va jusque-là.
Ça a été dit. Il est dans son linge, il nourrit ses poules, il nourrit ses lapins.
C'est l'homme à tout faire de la propriété,
Pardon. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense je veux dire des témoignages que j'ai recueillis de la fille de Madame Eldib et de ses petits enfants, puisque c'est une maison où les petits enfants se rendent le week-end. Je veux dire, ils vivent un peu l'un à côté de l'autre. Hein. Alors évidemment, peut-être qu'il l'a aidé un peu à jardiner.
Elle est moins seule. Enfin,
on peut pas dire que Madame Eldib a utilisé Monsieur Guillot comme étant le gardien de la propriété.
D'accord. Mais il y a un événement juste avant la pause. Je voudrais qu'on le précise. C'est que au bout de ces quelques semaines, il y a quand même à un moment, et ça, Cindy Hubert, ça semble être une bascule dans l'histoire. Expliquez-nous ce qui a été dit au procès. Nicole va lui dire...
Je n'ai plus besoin de toi, rentre à la maison.
Voilà. Et ne revient pas.
Il ne revient pas.
Et ne revient pas, elle lui dit, non.
Et ne revient pas. Donc lui rentre chez lui à Bobigny et rumine tout ça pendant des semaines et ne comprend pas. Surtout, il ne comprend pas pourquoi il a été éconduit. C'est comme ça que c'est le mot qu'il a utilisé, éconduit. Bon. Voilà.
Oui, Nicolas Jacquard.
Je voudrais quand même revenir sur cette notion d'espèce de jeu de séduction, alors qu'il semblait effectivement n'aller que dans un sens. Mais effectivement, on peut imaginer que Marcel Guillot lui-même se soit fait des films, comme on dit, parce que voilà, il semblait quand même attiré par cette ancienne amie de sa femme, et il lui a manifesté effectivement son intérêt.
Alors, je crois qu'il y a eu deux étapes, hein, si vous voulez bien. Oui. En fait, il y a eu l'étape fin septembre, effectivement, Marcel Guillot rentre chez lui, et il revient... un mois plus tard, je crois que c'est fin octobre, début novembre, et là il déclare sa flamme à Nicole Eldib, et celle-ci effectivement les conduit. Enfin, faut se rappeler les circonstances. Son mari est vivant, il est hospitalisé à quelques kilomètres de cette propriété. Il est malade, il est souffrant. Donc la démarche de Monsieur Guillot est vécue par Madame Eldib comme étant un peu indécente.
Ouais, il paraît qu'elle lui a dit j'aime pas les vieux. Mais bon, on verra, on en reparlera. Je parle sous le contrôle de l'avocat de la défense. On va faire une pause dans l'émission, puis on reviendra là cette fois sur cette fameuse nuit du 6 au 7 décembre 2011.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous parlons de ce drame qui a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 décembre 2011 dans un petit village de la Marne, dans une propriété d'un petit village de la Marne. Marcel Guillot s'introduit de nuit, on va vous raconter ça en détail. Et il est en colère, il n'admet pas avoir été éconduit, on va affiner tout ça dans un instant, et il va tuer on ne va pas refaire le procès là, mais dans des conditions assez atroces, cette femme, Nicole Eldib. Et nous sommes en compagnie donc de Cindy Hubert d'RTL, de Nicolas Jacquard du Parisien, et de maître Jean-François Delmas et maître Jean-Marie Job, qui étaient respectivement avocat de Marcel Guillot et avocat de Nicole Eldib. Alors, c'est à vous que je m'adresse d'abord, Jean-François Delmas, pour éclairer cette histoire de béguin. En tout cas, Marcel Guillot l'a présenté comme ça, lui. Il s'est senti éconduit, il n'a pas compris pourquoi. Il a même dit que s'il était revenu dans la nuit du 6 au 7 décembre, c'était parce qu'il voulait comprendre, il voulait qu'elle lui dise. Bon, il est quand même allé avec des gants et un bâton. Hein.
Bon, on reparlera peut-être du déroulement des faits, mais sur cet aspect d'être éconduit. Alors, on parle d'une relation amoureuse entre les deux, ou du début de relation amoureuse. C'est pas comme ça qu'il le conçoit, je pense, Marcel Guillot. Il se rapproche naturellement de Nicole pendant ces trois semaines. Il parle de leur futur. Elle lui parle de son futur. Et forcément, il se met en scène, mais pas forcément comme le futur compagnon de Nicole Eldib. Il est bien conscient d'abord que...
Il se projette dans une histoire, quand même, quoi.
Oui, mais toute relation, j'allais vous dire, charnelle lui est interdite. Donc, de facto, il sait très bien qu'il n'aura aucune relation charnelle avec Nicole Eldib. Je crois que c'est cette amitié... Non, d'être rejeté, de ne même plus être l'ami de Nicole, qui va le toucher profondément. Je crois.
Mais est-ce qu'on connaît alors je crois qu'il se projette aussi à vous, maître Jaboy.
Oui, il se projette tout seul, hein, parce que, enfin, je veux dire, c'est un sentiment qu'elles ne sont pas partagées, évidemment, par Nicole Eldib. Je veux dire, il se projette tout seul, il s'est fait un film tout seul. Je crois que ça, c'est clair, hein, on ne peut pas le contester.
Mais il reste un fait, pour parler des faits qu'il a. Alors, évidemment, c'est sa parole, puisque c'est même pas parole contre parole, puisqu'il est le seul survivant de cette histoire. Est-ce qu'on sait pourquoi un matin Nicole Eldib lui dit tu t'en vas et tu reviens jamais?
Je crois que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je veux dire, à la fin du mois de septembre, il était convenu qu'il reste jusqu'à la fin du mois de septembre. Je veux dire, ça s'est passé en deux temps.
Moi, j'avais compris qu'il y avait eu une rupture à un moment et que...
Voilà, et puis, encore une fois, pour revenir sur cette relation, elle était unilatérale. C'était M. Guillot qui, encore une fois, s'est construit, je dirais, une histoire dans sa tête. Et moi, des témoignages, évidemment, Mme Eldib n'est plus là pour nous le lire, mais des témoignages que j'ai recueillis de sa famille proche, qui, encore une fois, passaient les week-ends avec Mme Eldib. Je veux dire, ils ont eu les confidences de Mme Eldib. Elle était pas mécontente qu'il soit là, mais enfin, je veux dire, il y avait encore une fois une cohabitation plus qu'autre chose. Quoi.
Alors là, j'en viens à vous, Cindy Hubert et Nicolas Jacquard. La nuit du 6 au 7 décembre, parce que le crime va être découvert le 7 décembre, Cindy Hubert.
Donc, il prend sa petite Renault. Lui, il est à Bobigny. Nicole est dans la Marne. Il va faire les 200 km. Il a un tournevis, un manche en bois, une lampe torche. Il a 90 ans, à ce moment-là, je le rappelle. Il passe par la terrasse, il démonte le carreau, il arrive à monter au premier étage. Et à ce moment-là, c'est évidemment le médecin légiste qui va nous le raconter au procès. On va découvrir que les faits ont été vraiment très violents. Il y a eu plus d'une vingtaine de coups. Donc elle a eu la mâchoire, le nez cassé, l'avant-bras visiblement étouffé aussi. Et
ce qu'on appelle aussi des blessures de défense et tout ça, on reviendra dans le détail.
Et surtout, on va découvrir quand même des projections de sang dans la chambre, dans l'escalier, puis en bas, juste en fait tout le long du trajet qui mène jusqu'au jardin, puis vers le ruisseau où elle est découverte, où son corps est découvert.
Oui. Alors, Nicolas Jacquard, sur ce, vous, à quel moment vous étiez intervenu dans l'histoire? C'était avant le procès, hein? C'est au moment de la découverte de... Il y a eu une reconstitution, je crois.
Alors, il y a eu une reconstitution. Moi, je suis intervenu au moment du procès et j'ai un de mes collègues qui, lui, est allé sur place dans les jours suivant la découverte du corps, au moment où, effectivement, ce drame restait encore un mystère. Pour compléter ce que disait Cindy Hubert, on peut rappeler aussi que pour quelqu'un de 90 ans, Marcel Guillot, c'est quelqu'un qui a une force physique.
Oui, ancien bûcheron, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure.
Qui conserve à la fois ses facultés mentales, mais aussi ses facultés physiques. Il y a une anecdote à ce titre-là. On disait tout à l'heure qu'il partait régulièrement en vacances à Oléron. Et les gens qui le connaissaient là-bas.
Il partait avec sa caravane.
Il partait avec sa caravane tout seul, c'est R25. Il faisait le trajet d'une seule traite. Et quand il arrivait, les gens disaient bon, on va pour l'aider à mettre sa caravane en place. Mais Marcel Guillot, il n'y a pas besoin. Il prend sa caravane tout seul, il la déplace, il la met en place et il n'y a aucun problème. Et il a 90 ans.
Oui, d'accord.
Et c'est d'ailleurs au camping qui va être interpellé par les gendarmes. On imagine la scène au camping d'Oléron où c'était une figure du camping.
Alors justement, parlons de l'enquête. Au début, on pense que ça peut être un crime de rôdeur, ça peut être un cambriolage qui est mal tourné, sauf que on n'a rien volé dans la propriété.
Aucune trace de vol. Le chien est toujours le chien de Madame Eldib est dans la maison.
Voilà. Mais comme dans toutes les histoires, y compris les histoires de fiction, il y a un grain de sable. Et ce grain de sable, c'est qu'on a trouvé sur la scène de crime un bracelet montre, une montre. Il y a un bracelet brisé, donc vraisemblablement...
Arraché dans la bagarre.
Dans la bagarre. Et sur cette l'analyse scientifique de cette montre va mettre en évidence les ADN mêlés dans le
sang. M. Guillot va se prêter au test ADN.
Oui.
Je crois qu'il dira dans la procédure qu'il considérait que ça n'avait aucun risque à le faire, puisqu'il n'y avait que s'il y avait eu des relations sexuelles qu'on pouvait découvrir qu'il avait...
C'est ça, ouais.
Et donc...
Il avait présenté la montre, il a dit non, je la connais pas, j'ai jamais eu. Mais le lendemain de cet interrogatoire, il a acheté une montre.
Déjà, et puis de toute façon, le test ADN, on a pu comparer le test ADN qui figurait sur la montre et son ADN.
Ouais. Mais il faut toujours un peu de temps pour les analyses scientifiques. Donc, entre-temps, il est parti en vacances sur l'île d'Oléron avec sa caravane, comme Nicolas Jacquard le disait. Et il va rentrer à Paris, si j'ose dire, en hélicoptère. Une pause et on vous raconte la suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors nous parlons de cette affaire de meurtre avec un homme d'un côté qui a 90 ans au moment du drame, une victime qui en a 82. Bon, on commence à mieux cerner à la fois la personnalité de celui que tout le monde appelait Papy Marcel et de Nicole Eldib, donc qui, alors que son mari était hospitalisé, avait besoin peut-être d'une présence, tout simplement en attente d'ailleurs de retrouver un gardien pour la propriété. Cette présence, ça a été été celle de Papy Marcel pendant un certain temps, mais il s'est peut-être aussi projeté dans une histoire d'amour ou de, voilà, de séduction qu'il était le seul à partager, si j'ose dire. D'ailleurs, Edwige, notre téléphoniste, celle qui est au standard pour nous, vient de me porter une fiche d'auditeur, parce que vous savez que vous pouvez toujours appeler le 3210 tout au long de l'émission, nous envoyer des courriels sur rtl.fr. Et là, on a le témoignage de Dominique. Dominique, c'est un monsieur qui, chaque été, jouait à la pétanque tous les soirs avec Marcel au camping des Pins sur l'île d'Oléron. Et il dit que, malgré ses 90 ans, il descendait de Bobigny en voiture. Il l'a vu pas longtemps, donc vraisemblablement avant qu'on arrête donc à Oléron Papy Marcel. Et il dit que c'était quelqu'un de gentil, de nonchalant. Bon, il avait un peu de peine à ramasser ses boules, mais à cet âge-là, c'est normal. Et il dit que cet homme, cet auditeur, se dit choqué, étonné de ce geste, surtout que à la fin juillet 2011, hein, vraisemblablement, il leur avait dit qu'il leur présenterait prochainement son ami Nicole. Donc alors il avait l'intention de l'amener à Oléron.
C'est ce qu'a dit Marcel Guillaume, enfin il n'a jamais été...
Voilà. Enfin c'est ce qu'apparemment confirme cet homme qui joue au pétanque. Bon, alors maintenant on va en venir à ce procès. Cindy Hubert et Nicolas Jacquard l'ont suivi pour RTL et pour Le Parisien. Cindy, il y a eu évidemment dans ce procès une atmosphère très particulière. Dû au fait que, même s'il avait du mal à ramasser les boules, Papy Marcel, il entend très mal.
En fait, c'était assez bizarre, ce procès, parce qu'on basculait un peu du rire aux larmes, c'est-à-dire qu'on avait des faits terribles, avec une famille qui en pleurs au premier rang.
Évidemment.
Et donc, Papy Marcel, avec son sonotone, qui avait... un gros problème de surdité, ça a donné des scènes assez surréalistes avec par exemple le premier entretien formel quand on donne son nom au président qui a pris 15 minutes, finalement on a fini par le mettre juste en face de lui, tous les avocats étaient obligés de s'avancer, on était obligé de répéter les questions en permanence, il partait dans des digressions, il avait sa petite trousse de toilette bleue avec ses piles de rechange, il dodelinait de la tête, il se balançait, il semblait un peu ailleurs, donc c'était... Les débats étaient très compliqués.
Alors, évidemment, Nicolas Jacquard, dans ce cas-là, on se dit, est-ce que c'est vraiment parce que c'est un homme très âgé qu'il est dans cet état-là, ou est-ce qu'il veut attirer peut-être la sympathie du jury ?
Oui, on ne peut pas ne pas se poser la question. Après, son avocat nous le dira, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment, au fil des audiences, que ce n'est pas du chiquet pour dire les choses comme ça, que voilà, que vraiment, il a aussi son âge en termes d'audition. Cindy Hubert le disait, voilà, on a cet homme-là qui est recroquevillé, qui n'entend pas bien, on a le président qui toujours est obligé de monter le son et parfois même d'hurler, ce qui effectivement déclenche parfois quelques fous rires dans la salle
et en même temps un
sentiment de malaise aussi parce que voilà, quand on voit les faits, la violence des faits, ces 50 traces de sang retrouvées à travers la propriété, voilà, c'est choquant. Et puis on a aussi ce vocabulaire spécifique de Papy Marcel qui est ce vocabulaire d'une autre époque quand il explique pourquoi il est venu, pourquoi vous y êtes allé, parce que je voulais lui mettre une rompée, voilà, c'est comme ça qu'il dit Marcel Guillot. Et puis
c'est quoi, c'est une trempe quoi,
c'est une volée, voilà. Ouais, et dit, puis quand elle m'a jeté de la propriété, je me suis senti comme un ballot, voilà. Il a tous ces petits mots là comme ça qui mettent une espèce d'ambiance un petit peu étrange à ce procès.
Alors évidemment le procès est là pour faire éclater la vérité, hein. C'est le rôle d'un procès d'assises. Et là maintenant avec Jean-François Delmas et avec Jean-Marie Job, on va en revenir vraiment au cœur de l'affaire. La version Maître Delmas, la version de votre client, c'est que c'est un accident. C'est ça qu'il a dit, non, au départ. Il y a une bousculade, elle a glissé sur le tapis dans sa chambre et elle est tombée sur un meuble. Et moi, lui, ensuite, il l'a tiré par les pieds dans les escaliers, il a traversé toute la maison et il a essayé de la mettre dans sa voiture.
C'est plus compliqué que ça.
Parce qu'il voulait l'enterrer peut-être avec l'urne de sa femme.
Bon. C'est plus compliqué que ça. Ces premières versions vont permettre aux enquêteurs d'établir qu'a priori, c'est lui qui a porté les coups, parce que dans un premier temps, tant en garde à vue, entre parenthèses, sans l'assistance d'un avocat, que devant le magistrat instructeur lors de sa première comparution, donc juste à l'issue de sa garde à vue, il va reconnaître les faits de façon assez complète, avec un vocabulaire qui, semble-t-il, est assez différent de celui qu'il emploie, donc on pourra effectivement s'interroger sur la façon dont il formule les choses.
Procès, oui.
Exactement. Mais pour autant, par la suite, au fur et à mesure que le temps va passer, on va se retrouver face à un homme qui est atteint d'une amnésie. D'une amnésie, puisque peu à peu, la mémoire des faits va s'estomper, voire va s'effacer. Donc, je ne viens pas dire qu'il n'a jamais frappé Nicolas Ledip, au contraire. Oui. Matériellement, on ne peut pas dire le contraire. Oui. Mais pour autant, lui, l'a oublié.
Ouais. Dire il l'a oublié. Une amnésie sélective, quoi.
Oui, mais l'expert qui est présent, M. Poir, je lui fais dire, parce que je pressens qu'on va nous dire qu'on est en face d'un faiseur, de quelqu'un qui joue une comédie, se cache finalement derrière une amnésie pour éviter d'en parler. Ouais. Je lui demande quelle est la sincérité de Marcel Guillaume. Et il me répond, il est sincère. Lorsqu'il ne se souvient pas, il est sincère. Mmh. C'est un mécanisme de protection.
Et puis, tous les psychiatres aussi, Maître Jean-Marie Job, disent que parfois, quand les faits sont particulièrement horribles, les auteurs ne peuvent pas eux-mêmes se confronter avec l'horreur des faits qu'ils ont commis. Enfin, c'est une des clés d'explication.
Oui, oui, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a deux phases dans la défense de Marcel Guillaume. Dans un premier temps, il va reconnaître finalement les faits en garde à vue. Puis, dans un second temps, lors du procès, il va parler d'un accident. Il va effectivement dire des choses, qu'elle a glissé sur le tapis, etc. Alors que les blessures qui seront constatées par le médecin légiste, à savoir la fracture notamment sur l'avant-bras, suppose que Mme Nicole Eldib, surprise dans son sommeil, ait tenté de se défendre.
En plus, elle avait pris, je crois, des somnifères assez puissants, donc c'est une femme qui
tout
a été
à fait.
complètement surprise. Quoi.
Moi, je vais assurer cette défense avec Jean Hamet, mon ami associé, et nous allons décortiquer l'ensemble des rapports qui ont été réalisés dans le cadre de l'instruction, notamment le rapport d'autopsie, la constatation de la scène de crime. C'est effroyable, je veux dire. Enfin, il y a une scène de violence. Elle a vécu, elle a été massacrée, cette femme. Hein. Elle a été massacrée. Les derniers instants de sa vie, c'est les coups qui pleuvaient de la part de Marcel Guillaume. Hein. Il aura même, avant que nous commencions à plaider, il ira au président, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur le président, avant la clôture des débats. Et il s'approchera du président, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque, bon, quelques problèmes de surdité, même si je suis moi pas tout à fait convaincu que c'est pas quelque part un peu de la simulation. Et il va dire, vous savez, Nicole ne buvait jamais de lait, elle ne mangeait jamais de fromage.
Elle avait les os fragiles.
Voilà, on a assisté effectivement à des scènes assez inhabituelles devant une cour d'assises.
Ouais, bien sûr. Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission. On va revenir au procès ensuite, tous ensemble. Le troisième jour, s'est passé beaucoup de choses. Hein, le matin, réquisitoire. Puis après, la partie civile s'exprime. Après, c'est plutôt la partie civile s'exprime avant le réquisitoire.
Avant le réquisitoire, en principe.
Ah, bon, et ensuite, évidemment, c'est à la défense. Et donc, Maître Delmas nous dira comment il avait articulé la défense de cet homme qui risquait, rappelons-le, la perpétuité.
L'heure du crime sur RTL.
Alors c'est la dernière partie de cette émission consacrée à cette affaire et au procès de Marcel Guillaume. Je voudrais maintenant que Maître Jean-Marie Job et Maître Jean-François Delmas nous parlent à la fois de ce qui s'est dit à l'audience, mais surtout du côté, Maître Job, spécifique de ce procès. On juge un homme très âgé. Est-ce que c'est un procès comme un autre ?
Non, c'est pas un procès comme un autre eu égard à l'âge du présumé coupable, enfin, de l'accusé. Ceci étant, je veux dire, c'est un crime atroce. Hein, et c'est ce que nous avons plaidé avec Jean Hamet devant la cour d'assises. Un crime atroce, une violence inouïe.
Mais on a dit, pardonnez-moi de vous interrompre, on a dit qu'il risquait la perpétuité. Les faits ont été requalifiés.
Oui, les faits, bien sûr. Alors, on juge un homme. Hein, on juge des faits, mais on juge un homme.
Donc, on les juge faits ont été blessures, les volontaires.
Voilà. En fait, ça a été requalifié en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, les jurés.
C'était plus la perpétuité.
Voilà. Les jurés ont considéré qu'ils n'étaient pas convaincus finalement de cette volonté. Mais il y a eu la préméditation qui a été retenue quand même. Préméditation. Oui. Bon, et surtout l'état de faiblesse, l'état de vulnérabilité, de particulière vulnérabilité de la victime qui a été aussi reconnu.
Et l'avocat général demande 18 ans.
Demande 18 ans. Et les jurés, effectivement, le verdict, c'est 10 ans.
Ça, on y viendra dans un instant. Mais et vous, alors là, comment est-ce que vous intervenez ?
Nous étions à ce procès sans aucun sentiment de vengeance.
urgence particulier. Ce que nous voulions que soit reconnu, c'était la culpabilité de Monsieur Guillot. Mm-hmm. La peine, si vous voulez, moi, eu égard à l'âge de l'auteur des faits, me paraît tout à fait appropriée, en tout cas adaptée. C'est évident que si l'auteur des faits avait été plus jeune...
Il est dans sa quatrième année, il commence sa quatrième année d'incarcération.
Si l'auteur des faits avait été plus jeune, il est vraisemblable que la condamnation aurait été supérieure. Hein.
Oui.
Mais là, moi, ce que je voulais dire, c'est que la réaction de mes clients à l'annonce évidemment des faits, c'est un sentiment d'horreur, d'incompréhension. D'incompréhension et doublement d'incompréhension lorsqu'on a su qui était le présumé coupable, lorsque M. Guillot a été arrêté, que son ADN a été confondu avec celui trouvé sur la montre, trouvé dans la chambre de la victime.
Mais d'une certaine manière, on peut considérer que ceux que vous défendez, que vous défendiez encore, ont trouvé la sanction correcte.
Voilà, oui, je crois que sur ce point, pas de commentaire particulier à faire. La seule chose, c'est que effectivement, nous sommes attachés dans le cadre de nos plaidoiries à démontrer un, la violence des faits, deux, à démontrer l'horreur de ce crime.
Maître Jean-François Delmas, alors plaider dans ce procès donc particulier aussi pour ce très vieil homme, comment vous êtes intervenu dans...
Lorsque vous défendez Marcel Guillot, on peut pas dire que vous établissez une stratégie de défense. Vous accompagnez un homme qui se défend comme il peut et vous adaptez à ce qu'il raconte. En pratique, concrètement, au cours des débats, on a Monsieur Ployer, qui est l'expert psychiatre, qui intervient, psychologue, je sais plus, et qui va nous donner une piste de compréhension de ce dossier, qui va nous dire comment il porte les coups. Il est dans un état second, qu'il est dans un état d'inconscience, et donc ça nous ouvre la porte à nous en défense.
Circonstances atténuantes, quoi.
Sur l'absence de volonté de tuer. Sur l'absence de volonté de tuer. Alors après, porter la question sur la préméditation ou pas, on va nous dire que c'était quelque chose qui était préparé. C'est un dossier extrêmement compliqué puisque Marcel Guillot n'a eu que peu d'explications à donner et à offrir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsqu'on a proposé au magistrat instructeur d'aller vérifier sur place, par exemple, avec quel objet il avait pu frapper à son domicile la victime, et notamment cette lampe torche, tous ces actes d'investigation nous ont été refusés parce qu'il y avait une espèce d'urgence à le juger, parce qu'on avait peur qu'il ne meure avant son procès.
Les experts disaient que vraisemblablement les coups avaient été portés par un objet en bois contondant, qui correspondait à ce manche de hachette qu'on n'a pas retrouvé, mais qui est peut-être parti dans la rivière où on l'a retrouvé.
Il y a une grande différence entre arriver avec un bâton pour frapper quelqu'un et arriver avec une lampe torche et frappé avec la lampe torche.
Bah oui, bien sûr.
C'est la préméditation de vouloir blesser.
Il a été établi que les coups n'avaient pas pu être donnés avec une lampe torche.
C'est ce que je rappelais. Alors, je voudrais qu'on entende un dernier document RTL. On va retrouver Cindy Hubert qui suivait donc ce procès pour RTL. C'est la fin d'après-midi du 28 mars 2014. Il y a eu les réquisitions, on a demandé 18 ans et c'est l'heure du verdict.
Coupable mais pas meurtrier, Marcel Guillot voulait-il tuer Nicole ? Cet après-midi, la cour répond donc que le doute subsiste. Une décision qui laisse un goût amer à la famille de la victime. Ses proches regrettent surtout l'attitude du vieil homme pendant le procès. À aucun moment, il n'a exprimé de remords. Leur avocat, maître Jean-Marie Job.
C'est choquant pour la partie civile, ça peut facilement se comprendre. Et venir dire ce matin, je dirais à la fin de ce procès, que si elle avait les os du nez décassés, la mâchoire fracturée, c'est parce qu'elle avait les os fragiles et qu'elle ne buvez pas assez de lait, enfin tout ça est pitoyable.
À l'annonce du verdict, Marcel Guillot dodeline de la tête, l'air un peu ailleurs. Son fils Joël est au premier rang, il encaisse la décision.
C'est la justice des hommes. Ça m'a touché aussi de savoir qu'une femme peut décéder dans des conditions pareilles. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est mon père, comme ça peut arriver à n'importe qui, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être...
Marcel Guillot a déjà passé 2 ans en prison. Dès le mois prochain, il devrait pouvoir faire une demande de liberté conditionnelle.
Alors là, on était en mars 2014, hein, Cindy Hubert.
Oui, puis il est toujours
en prison. Il est toujours incarcéré, il est le plus vieux prisonnier de France. Alors, je vais vous donner la parole, maître Delmas. C'est toujours à la défense qu'on donne la parole à la fin d'une émission. C'était un procès particulier étant donné son âge, mais c'est aussi un détenu particulier étant donné son âge. Il y a la loi Kouchner.
Absolument. Il y a la loi Kouchner qui s'applique. Donc on a sur cette base-là donc fait une requête en suspension de peine pour lui permettre de finir ses jours ailleurs que dans cet établissement horrible qui était la maison de Châlons-en-Champagne où il était incarcéré, avec parfois jusqu'à 9 co-détenus dans sa cellule. Et puis cette requête a été rejetée. Une première fois par le tribunal d'application des peines et une seconde fois par la cour d'appel.
Et il est libérable
Libérable, je crois, fin 2018. Fin 2018. Mais on va refaire une nouvelle requête, puisqu'on a quand même une expertise médicale qui disait que son état n'était pas compatible avec la détention. Le problème, voyez-vous, c'est qu'il y a eu un deuxième expert qui a dit que c'était compatible.
Maître Job,
pardonnez-moi, comment va-t-il aujourd'hui? Juste, je voulais poser cette petite question, savoir si on a des nouvelles de lui.
Mais écoutez, c'est un homme qui ne se plaint jamais. Donc l'avantage de sa nouvelle maison d'arrêt, c'est qu'il est plus proche de son fils, qui vient lui rendre régulièrement visite, et que, ma foi, c'est un homme qui n'a jamais eu un mot sur ses conditions difficiles de détention.
Maître Job, vraiment dernière question. S'il est libéré dans cette optique de l'application de la loi Kouchner, ceux que vous défendez considéreront que... c'est comme ça qu'il va se passer.
Oui, de toute façon, on
applique les décisions. Voilà,
exactement. Et par ailleurs, la seule chose, c'est qu'on souhaite qu'ils ne reprennent pas contact avec la famille.
Je vous remercie beaucoup les uns et les autres. Merci infiniment. L'émission est terminée. On est un peu en retard. Je suis sûr que vous allez nous pardonner.